Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Nous terminerons aujourd'hui le livre écrit par Gérit Messier, Les diaconesses de Reuilly, un germe fécond aux éditions du Cerf. Au début de ce dernier épisode, nous continuons à lire un témoignage. Celui-ci, c'est celui de Sœur Danielle. Sœur Danielle, elle est née en Lorraine en 1912. Elle vint habiter Nancy à l'âge de 5 ans et y passa sa jeunesse. Elle a grandi dans une famille heureuse, sans difficultés particulières. Ses parents avaient perdu 2 fils en bas âge. Mais elle n'a pas été élevée comme une fille unique. À la maison, on recevait volontiers ses camarades de classe. Danielle fit des études de puériculture à Strasbourg, puis travailla dans une pouponnière auprès d'enfants abandonnés. « Là, dit-elle, j'ai déjà appris à servir Dieu. Nous avions une directrice extrêmement engagée spirituellement et toute la maison était imprégnée de la présence de Dieu. » Puis, elle fait ses études d'infirmière à l'école Ambroise Paré de Lille. Sur le plan spirituel, Sœur Danielle a été très marquée par sa paroisse réformée de Nancy. Et elle a fait sa confirmation avec beaucoup de sérieux. Après ses études d'infirmière, elle est revenue à Nancy et pendant 3 ans, c'était la guerre. Elle travailla dans une usine dont elle organisa le secteur social et médical. Et voilà que la paroisse lui demanda de venir travailler au milieu d'elle comme infirmière. Ce qu'elle fit en collaboration avec une diaconesse de Reuilly, qui était, elle, assistante de paroisse. C'est par cette sœur que Danielle entendit parler de la communauté. Un jour, la prieure de ce moment-là, sœur Annette, est venue avec le pasteur Loga pour parler à la jeunesse de la paroisse. Et Danielle, qui avait 28 ans, fut très impressionnée. Elle trouvait tout cela très beau, mais très sévère. Pourtant, elle s'interrogeait tout en se disant « Je travaille dans cette paroisse au nom du Seigneur. Pourquoi est-ce que j'entrerai dans une communauté ?» En même temps, elle éprouvait le besoin de faire partie d'un corps constitué. Un jour, elle ouvrit sa Bible sans y chercher quelque chose de particulier, sans doute pour lire le texte du jour, et elle tomba sur cette parole. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et Dieu, par ce verset, lui parla. Elle assista alors à la consécration de 5 sœurs à Reuilly, et de retour à Nancy, elle fut certaine que Dieu l'appelait, elle aussi. Elle écrivit à sœur Annette, et quand elle lui mit la lettre à la boîte, elle sentit une joie débordante qui lui donnait envie de danser et de chanter. Le 1er mai 1947, elle entra au noviciat et elle fut consacrée le 6 novembre 1949. À son arrivée à Reuilly, sœur Danielle travailla pendant 6 mois à la cuisine, puis à la ruche pendant 5 ans. 2 ans à l'internat, 3 ans au foyer de semi-liberté. Elle fut ensuite assistante de paroisse dans la paroisse de Plaisance, à Paris, pendant 3 ans. Et voilà qu'elle eut la grande joie d'être envoyée à Nancy, sa paroisse d'origine, comme assistante de paroisse auprès des 4 pasteurs. Il y avait 6 ans qu'elle y travaillait lorsque les grands ensembles du Haut du Lièvre commencèrent à sortir de terre avec leurs blocs de 15 étages. Et la pensée lui vint qu'il devait y avoir place dans cet endroit pour une petite fraternité comme celle que la communauté venait d'ouvrir en Algérie. Elle écrivit à sa supérieure, sœur Viviane, et reçut la réponse par retour du courrier « 100% d'accord avec vous. Dès que vous avez l'appartement, je vous envoie une sœur. » Au mois de septembre, elles avaient déposé la demande pour une HLM et en janvier, elles avaient l'appartement. Elles s'y installèrent d'abord à deux, puis à trois. Elles firent beaucoup de visites, organisèrent une école biblique, une rencontre pour les jeunes mamans. Elles priaient régulièrement les offices, auxquels venaient souvent se joindre d'autres personnes, surtout au moment de l'Avent et du Carême. Les sœurs essayaient de rendre des services à tout le monde. Un jour, une jeune femme enceinte frappa à la porte, demandant qu'on l'amène vite à la clinique. Il y avait encore peu d'autobus et pas de centre commercial. Aussi, quand sœur Danielle allait en ville avec sa petite deux chevaux, elle en faisait toujours profiter deux ou trois personnes. Les autres sœurs pouvaient aller à pied, c'était sur place. Sœur Danielle fut aussi directrice de la colonie de vacances de la paroisse dans les Vosges, pour sa grande joie. Puis, sœur Viviane la rappela à Reuilly. On avait absolument besoin d'elle pour prendre la responsabilité du foyer de l'école d'infirmières. Ensuite, elle devint quelque temps surveillante générale de l'hôpital de Reuilly, avant une nouvelle grande tâche, la direction de Claire Demeure, l'hôpital de gériatrie qui venait de s'ouvrir à Versailles. Là, elle a beaucoup souffert et compatit avec les grands malades âgés et les plus jeunes atteints de maladies incurables. Elle partageait également les peines et les joies du personnel. Elle découvrit le secret qui fait de Claire Demeure une Claire Demeure. C'est le goût de vivre. Alors, elle rassembla toutes ses énergies morales et spirituelles et se mit sérieusement à la tâche. Elle organisa des cultes et des fêtes à toutes les occasions possibles et imaginables. On s'y préparait avec entrain et tous les malades et le personnel participaient à la fête. D'ailleurs, cela continue sous l'impulsion de sœur Nathanaël. On construisit pour cette raison une grande salle de réunion et de fête qu'on appela « Soleil d'automne ». Puis est arrivé, pour sœur Danielle, l'âge de la retraite. Elle n'est pas allée au Benoît Préau, mais à la demande de sœur Myriam, elle est restée à Versailles, où elle est très heureuse. Elle peut vivre plus intensément qu'autrefois la vie liturgique de la communauté. Elle a elle-même connu toute la période d'évolution de la communauté, a participé à la première retraite conduite par le pasteur Lagny à Bièvre. Elle parle avec admiration de sœur Annette qui a amorcé cette évolution en introduisant des cultes de Sainte-Cène mensuels selon la liturgie luthérienne et les recueillements du vendredi, un moment bienfaisant où une sœur lisait et méditait un texte d'évangile d'une manière très contemplative et priante. Elle se souvient du tournant décisif pris par sœur Viviane qui répétait sans cesse. « Mes sœurs, il faut aller doucement par charité pour nos sœurs aînées !» La plupart des sœurs étaient heureuses de cette évolution. Nous avons marché avec notre prieur, et moi qui étais en province et ne revenais que de temps en temps, je sentais une harmonie qui se constituait dans la communauté, dit-elle. Et elle poursuit avec enthousiasme. Mais c'est surtout à Versailles que j'ai découvert la vie liturgique, la vie monastique, bien que je n'emploie pas beaucoup ce mot, à travers les offices, les réunions communautaires. C'est allé en s'approfondissant. J'ai compris comme il peut être difficile de devoir cesser sa vie professionnelle d'un jour à l'autre quand on s'y est beaucoup donné et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire ensuite. Mais j'ai fait le passage. Au début, j'ai eu du mal à l'accepter. Maintenant, je suis heureuse. Je fais de la couture, je fais des courses pour la cuisine, je décore des bougies, des petites choses comme quelqu'un qui va avoir 80 ans. Et finalement, j'ai pas mal de travail. C'est un dialogue animé avec un être heureux et plein de vie. Oui, vraiment. Mais Un sourire particulier court sur toutes les rides de son visage lorsqu'elle évoque l'époque du haut du lièvre. C'est un trésor au fond de son cœur que la prière transforme en gratitude. Après ce témoignage, nous allons voir celui d'une jeune postulante. Une postulante. La communauté de Reuilly a un postulat ouvert. C'est une manière de dire deux fois la même chose. Car un postulat est toujours ouvert. Mais l'adjectif veut signifier que quelqu'un qui n'a pas l'intention de devenir novice, mais qui désire partager la vie des diaconesses pour une année, peut le faire. Une jeune fille de Paris a choisi de passer 6 mois avec les sœurs, espérant discerner pendant ce temps ce que serait l'étape suivante de sa vie. Elle raconte. Ce que je trouve ici, c'est tout d'abord l'amitié des sœurs, un milieu chaleureux plein d'affection, ce dont j'ai vraiment besoin. Et puis, la possibilité d'approfondir ma foi avec d'autres qui ont la même conviction intérieure. Bien sûr, la famille de laquelle je viens est croyante, mais pas comme ici. Qu'est-ce qu'on peut trouver quand on est jeune dans une forme de vie aussi traditionnelle? Mais ça me fait du bien. Comme jeune, j'ai tendance à vouloir toujours aller de l'avant, inventer du neuf. Mais ici, je suis prise dans une structure et des traditions. Et ce n'est pas si mauvais. Je peux demander conseil à celles qui sont plus âgées. Et cela me fait réfléchir et me donne des forces pour aller plus loin par mes propres moyens. Ensuite, nous allons penser à terminer ce texte par des informations plus précises sur la vie de consécration du monastère lui-même. Dans ce chapitre 12, nous lisons la liturgie de consécration concernant les personnels qui sont à Reuilly. Après la prédication, la prieure adresse quelques mots à l'assemblée. Puis on lit un extrait du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Vient ensuite l'appel de la future consacrée qui répond en chantant « Accueille-moi Seigneur selon ta parole et je vivrai. Ne me déçois pas dans mon attente » selon les termes du psaume 119 et du verset 116. Voici le rappel de l'engagement baptismal. Le pasteur président. Sœur N, voilà plusieurs années que vous partagez la vie de cette communauté. Aujourd'hui, le moment est venu de prendre votre engagement devant nous tous. Par le baptême, vous êtes devenus enfants de Dieu. Dans la grâce de ce baptême, voulez-vous vous offrir à Dieu dans cette communauté pour vivre au milieu des hommes, avec toute l'Église, dans la joie, la simplicité, la miséricorde? Réponse : oui, je le veux. Le pasteur président : ma sœur, le Seigneur reçoit votre obéissance. Il accompagne chacun de vos pas et vous garde dans sa paix. Un répond chanté. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ. Alléluia. Tiré de Galates 3, le verset 27. Accueil de la communauté. La prieure. Ma sœur, que demandes-tu? Réponse. La miséricorde de Dieu et celle de mes sœurs. La prieure s'adresse à la communauté. « Mes sœurs, voulez-vous accueillir sœur N dans la confiance et dans la joie ?» Réponse de la communauté. « Oui, nous le voulons. » Prière de consécration. Elle date du 5e siècle. Dieu éternel et tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as créé l'homme et la femme afin qu'ils te servent. Toi qui as rempli de ton Saint-Esprit une Myriam, une Déborah, une Anne et une Élisabeth. Toi qui as choisi une femme pour devenir la mère de ton fils. Veuille te pencher sur ta servante que voici. Accorde-lui ton Saint-Esprit et purifie-la de toute souillure de la chair et de l'esprit, afin qu'elle accomplisse dignement l'œuvre que tu lui confies à ta gloire et à la louange de ton Christ. À qui soit avec toi et le Saint-Esprit la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Engagement dans la communauté. Moi, sœur N, je promets devant toi, sœur Myriam, prieur de cette communauté et devant l'Église rassemblée, de ne rien préférer à l'amour du Christ, de vivre pour lui dans le célibat, de le suivre dans l'obéissance, pour que nous soyons un en lui, de partager toutes choses avec mes sœurs, dans les difficultés et dans les joies, et cela dans ma fragilité. Je le veux jusqu'à la mort. Remise de la croix de consécration. La prière. Ma sœur, reçois maintenant cette croix. Elle est le signe de ton appartenance à Dieu au sein de notre communauté. Cette communauté est désormais la tienne. Tu es responsable avec nous de sa fidélité. Imposition des mains. La prière. Le pasteur président et un second pasteur. Que le Saint-Esprit repose sur toi, affermisse ta vocation, fortifie ton âme, consacre ta vie et fasse resplendir en elle l'éclatante lumière de ton baptême pour la gloire de Dieu et l'amour des hommes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Signature de la Bible de communauté. Remise de la règle de la communauté par la prière. Ensuite, chant du cantique des Hébreux par la communauté, la prière, le chant du Magnificat, suit la célébration de la Sainte Cène.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus dans l'émission Jolie pour vous. Présenté par Hélène Vignon.
Ensuite, nous allons lire un épilogue qui a été rédigé par la personne qui a écrit le livre. Épilogue. 1. Si l'on considère la réforme à ses origines, on ne trouve pas de contradiction entre une conception protestante de l'existence en l'Église et une vie en communauté monastique, avec l'observance des vœux de pauvreté, de célibat et d'obéissance. La réaction protestante ne peut s'adresser aux abus qu'aux abus et aux malentendus. Aux abus, là où le cloître devient un refuge pour fuir les exigences de la vie. Aux malentendus, quand le moine ou la moniale est supposé avoir atteint un degré supérieur de sainteté ou pense pouvoir mériter son salut et celui des autres par ses œuvres. 2. À une époque que l'on peut considérer comme la plus défavorable de toutes pour la fondation d'une communauté protestante, cette vision a surgi en France dans les cœurs d'Antoine Vermeil et de Caroline Malvezin. C'était une vision de toute l'Église du Christ unis dans la louange, l'ordre et l'obéissance. La fondation d'une communauté de diaconesses serait un modèle, un signe, une réalisation visible de cette Église-là, non un but en soi. Grâce à l'accent un peu trop prononcé mis sur les œuvres de bienfaisance et le service que ces diaconesses accompliraient, la fondation fut relativement bien accueillie dans les milieux protestants. Mais elle perdait aussi de son vrai but. Néanmoins, les sœurs ont maintenu la forme de vie qui correspond à ce but, ce qui a rendu possible un réveil et une réorientation. Aujourd'hui, en trois. La communauté de Reuilly associe une vie contemplative, liturgique et œcuménique, dans un style et une atmosphère qui lui sont propres, à un solide attachement aux églises, un attachement qui ne lui est pas imposé de l'extérieur, mais qui est souhaité et vécu de l'intérieur, comme une nécessité fondamentale. En cela, la communauté diffère de la communauté de Thésée. En 4, dans l'Ancien Testament, Abraham est appelé avec tous les siens à partir vers un pays inconnu que le Seigneur lui montrera. Le peuple d'Israël, esclave en Égypte, est libéré et conduit à travers le désert vers la terre promise. Dans le Nouveau Testament, Jésus appelle des hommes et des femmes à quitter leur sécurité et à le suivre en vue de l'avènement du royaume de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres et les divers épîtres nous décrivent un groupe, une communauté d'hommes et de femmes qui ont été appelés par cette promesse. Il s'agit dans chaque cas de l'avenir d'un peuple, d'une communauté. Cette vocation fortifiée par le baptême et la confirmation demande en retour une totale oblation de sa vie au Seigneur et à la communauté. La réforme confirmait cette vision, affirmant que le Fils de Dieu élit pour la vie éternelle de tout le genre humain une communauté qui l'assemble, protège et garde, et dont je suis un membre vivant et le resterai éternellement. L'Église, en devenant une institution importante dans la société, a réduit la tension eschatologique qui l'animait à l'origine et a rendu l'effort personnel et la cohésion de la communauté ecclésiale moins contraignants. Elle cherchait ainsi à rejoindre plus largement la masse des fidèles qui a des besoins religieux mais discerne mal l'exigence chrétienne. Ceci, au grand regret de beaucoup qui aspirent ardemment à des communautés structurées de prière et d'engagement, persuadés qu'ils sont de la présence invisible du Seigneur par son esprit, de l'existence secrète du royaume dans ce monde, attendant encore qu'on les découvre et qu'on en fasse l'expérience. En 5. Une communauté est, comme telle, une protestation et un laboratoire dans le vaste monde des églises. Une protestation contre le relâchement et le laxisme, un laboratoire d'œcuménisme, de liturgie et de diaconie au service du Seigneur qui, seul, construit son royaume et le fait advenir, mais qui veut le confier à des cœurs et à des mains d'hommes. La diaconie est plus qu'un secours matériel dans le besoin. Elle est le service global de la personne par la prière, la parole et la main tendue. Dans la communauté, le pivot indispensable est la prière personnelle de chacune, mais avant tout, la prière qui transcende chacune, celle de la liturgie, surtout dans la célébration de la Sainte Cène. Cette prière imprègne tout. Elle marque les heures de la journée, les jours de la semaine, les temps de l'année. Elle devient, en vérité, la sanctification de la vie. En 6. Plusieurs sœurs de Reuilly utilisent très spontanément le verbe « incarner ». Leur vocation, leur foi, leur consécration s'incarnent dans cette communauté. Foi et consécration deviennent ainsi des réalités de chair et de sang. Elles passent dans toute une vie humaine. En 7. La prière, et particulièrement la prière liturgique, est une source de force et d'encouragement pour vivre et travailler dans ce monde. Mais elle est davantage encore. Elle est l'accès à la source même, la rencontre avec le vivant qui nous donne la vie. La communauté ecclésiale est comme la femme qui voudrait puiser de l'eau à la source, mais qui doit apprendre à reconnaître la vraie source par l'ouverture et l'abandon de sa vie. Jean chapitre 3, 4. En 8, toutes les religions ont tort. Toutes les prières ont raison. Tiré du livre de Claude Roy, Temps variable avec éclaircie, Paris chez Gallimard. Cette déclaration anticonformiste de Claude Roy, qui avait servi de conclusion à notre étude sur les communautés de Jérusalem, peut rendre ici le même service, maintenant que nous avons fait connaissance avec la communauté de Reuilly. Une demi-heure de prière ensemble à l'office ou en solitude est plus convaincante que des sermons ou des discussions. Arrêtons-nous à la source. La religion parle de Dieu, la prière parle à Dieu. Pour lui, elle se tait, en lui, elle se repose. Louange. Parfaite verticale, il ne s'agit plus de toi, il ne s'agit plus de nul être au monde maintenant. S'élève l'acclamation. Gloire, gloire, Dieu est Dieu. Tu t'élances vers lui comme l'alouette dans le ciel. La pesanteur n'est plus, ne subsiste qu'un chant. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Éternel est son amour. Tiré de la règle de Reuilly. Nous terminons aujourd'hui la lecture du livre Les diaconesses de Reuilly, un germe fécond aux éditions du Cerf. Amis auditeurs, n'oubliez pas, je lis pour vous une émission de Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB+. Écoutez sur votre radio les mardis et mercredis à 21h, avec rediffusion les lundis et mardis à 6h. Une émission qui est toujours disponible dans les podcasts de notre site www.radioallianceplus.fr. À bientôt pour partager avec vous un nouveau livre.